France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Michel Foucault, archéologue du pouvoir, c'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, Foucault et la sexualité. Comment la norme sociale s'installe-t-elle ? Cette question est au cœur des préoccupations du penseur du XXe siècle, Michel Foucault. La norme, c'est un problème distinct de celui de la loi. Et dès lors, l'enjeu du pouvoir est pour lui bien plus large que celui du pouvoir politique. De plus, Foucault est convaincu que les corps intéressent intensément le pouvoir. Nous avons déjà eu l'occasion de le constater dans notre épisode sur la folie, dans celui sur la prison. Nous en parlerons encore demain en évoquant la notion foucauldienne de biopouvoir. Qu'en est-il de la sexualité que nous évoquons ce matin ? La sexualité s'inscrit dans une intimité dont on se demande par quelle ruse la norme parvient à l'atteindre. La force ici du propos de Foucault est de dire qu'en Occident, depuis longtemps et notamment dans les pas du christianisme, l'enjeu le plus important n'a pas été de réprimer le sexe ou certaines de ses pratiques. C'est très insuffisant de poser le problème en ces termes, ceux de la répression. Il s'agit plutôt, depuis des siècles, de faire du sexe un sujet dangereux et source de honte, mais qui se dise ainsi, qui se parle, qui soit l'occasion d'un aveu incessant. Rien de plus excitant, finalement, que cette parole obsédée par la chair, vérité profonde des individus. Bonjour Arianna Sforcini.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris-Est-Créteil, spécialiste de la pensée de Foucault. Vous avez notamment publié en 2014 aux Presses universitaires de France Michel Foucault, une pensée du corps. Et vous venez d'éditer et de préfacer chez Gallimard un texte inédit de Foucault intitulé « Les hermaphrodites », mot qui n'est plus très utilisé aujourd'hui, on dit plutôt les personnes intersexes. Ce texte de Foucault renvoie notamment au problème du vrai sexe, entre guillemets, évoqué par Foucault déjà dans sa préface de 1980 au souvenir d'Herculine Barbin. Herculine Barbin ou Barbin était un ou une hermaphrodite qui, à 21 ans, a été déclarée homme par une décision médico-juridique et qui s'est suicidée peu après. Et bonjour Laurie Loffert.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et professeur au département d'études psychanalytiques à l'Université Paris-Cité. Vous avez publié en 2025, et vous êtes déjà venu chez Géraldine Mosna-Savoie pour en parler, un ouvrage aux éditions La Découverte intitulé « Les héroïnes de la modernité, mauvaise fille et psychanalyse matérialiste ». Et quelques années plus tôt, chez le même éditeur, un essai intitulé « Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion ». Alors vous connaissez extrêmement bien l'œuvre de Foucault. Vous nous direz notamment comment, selon vous, la psychanalyse peut intégrer la critique que Foucault lui adresse au lieu d'y voir une injonction à se saborder. Commençons, si vous le voulez bien, par le refus de Michel Foucault de penser la sexualité comme un simple objet d'une répression en Occident. C'est plus complexe que cela. Voici une archive de lui sur France Culture en janvier 1977, puis un extrait de La volonté de savoir.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité ? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire ? À quoi ça sert de s'y intéresser ? De sorte que le problème de l'interdit ne doit pas être sans doute le problème premier. Je ne veux pas dire du tout que la sexualité chez nous n'est pas interdite. Je ne veux pas dire du tout qu'elle n'est pas réprimée, je ne veux pas dire qu'elle est permise sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, sous toutes les conditions possibles. Mais je veux dire que l'interdit, là où il fonctionne, comme par exemple en effet l'interdit de l'inceste, ou l'interdit beaucoup plus souple des relations prénuptiales, ou l'interdit encore plus souple et encore plus laxiste des relations extra-conjugales, bon, si tous ces interdits ne sont pas des pièces à l'intérieur d'un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus positif, où on pourrait dire en gros que les relations de pouvoir, les contrôles sociaux se sont emparés en effet de la sexualité, tantôt pour en parler, tantôt pour empêcher qu'on en parle, tantôt pour l'exciter, la susciter, la favoriser, tantôt au contraire pour la masquer, l'interdire. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité Et c'est cette technologie, plus fondamentale que les interdits ou les permissions, que j'ai voulu reconstituer.
On évoque souvent les innombrables procédés par lesquels le christianisme ancien nous aurait fait détester le corps. Mais songeons un peu à toutes ces ruses par lesquelles, depuis plusieurs siècles, on nous a fait aimer le sexe, par lesquelles on nous a rendu désirable de le connaître et précieux tout ce qui s'en dit, par lesquelles aussi on nous a incité à déployer toutes nos habiletés pour le surprendre et attaché au devoir d'en extraire la vérité, par lesquelles on nous a culpabilisés de l'avoir si longtemps méconnu. Ce sont elles qui mériteraient aujourd'hui d'étonner. Et nous devons songer qu'un jour, peut-être, dans une autre économie des corps et des plaisirs, on ne comprendra plus bien comment les ruses de la sexualité et du pouvoir qui en soutient le dispositif sont parvenues à nous soumettre à cette austère monarchie du sexe, au point de nous vouer à la tâche indéfinie de forcer son secret et d'extorquer à cette ombre les aveux les plus vrais. Ironie de ce dispositif, il nous fait croire qu'il y va de notre libération.
Le texte que vous avez entendu est extrait du premier volume, en fait, de ce qu'on appelle l'histoire de la sexualité, mais comme, quand il a été publié, il s'intitulait La volonté de savoir. Alors parfois, par extension, on dit que l'ensemble des quatre volumes fait partie de La volonté de savoir. Et auparavant, vous avez entendu une archive de Michel Foucault sur France Culture en 1977. C'est quand même curieux que nous soyons si obsédés par l'idée que la sexualité est réprimée, alors que ce n'est pas ça le sujet. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Foucault trouve que ce qui est beaucoup plus le sujet, c'est notre obsession même d'être réprimé. Je vous écoute, on ne s'attendait pas forcément à cette thèse chez Foucault, Arianna Sforcini.
Et je pense que justement c'était ça l'enjeu de la volonté de savoir. Sa thèse un peu de provocation était justement qu'on n'est pas les héritiers de l'âge victorienne, celle qui cachait les jambes des tables parce que ça faisait trop penser aux jambes de femmes. En réalité, ou du mieux, on l'est, mais pas parce que la question de la sexualité et du sexe serait un interdit majeur. Derrière cette idée de l'interdit, il y a en réalité une injonction énorme, monumentale, à parler du sexe, à produire des discours sur la sexualité, d'ailleurs discours médicaux, scientifiques, psychologiques, psychanalytiques. Et l'enjeu de ces discours, c'est en fait de... Et c'est par là que Foucault va et ira même après la volonté des savoirs et 76, l'enjeu de ces discours, c'est de nous dire, de chercher dans la sexualité quelque chose de notre vérité la plus intime. En fait, cette idée de... il ne s'agit pas que des sexualités quand Foucault refuse l'hypothèse répressive. En fait, c'est toute une nouvelle proposition de la manière de penser en philosophie la question du pouvoir qu'il y a derrière ça. La sexualité est vue comme un dispositif, dit Foucault, c'est-à-dire un ensemble de pratiques à la fois politiques, des pratiques sur soi, des discours scientifiques ou des discours politiques. Donc, c'est la question du pouvoir plus en général qu'il y a derrière. Et justement, si Foucault avait pu être, au début des années 70, encore un peu fasciné par cette idée répressive, les pouvoirs, c'est ceux qui nous empêche, ce qui nous interdit de faire quelque chose. En 76, il a bien clair qu'il faut penser le pouvoir autrement, que ce n'est pas très productif de le penser comme répression, parce que le pouvoir, en fait, est productif. Le pouvoir, c'est un réseau de relations qui produisent des discours, des formes de vérité, des formes de subjectivation, et la sexualité fait partie de ces réseaux de pouvoir.
Donc si je comprends bien, Laurie Lefer, le pouvoir façonne la sexualité, notamment à travers du discours, mais c'est tout autre chose qu'une répression.
C'est-à-dire que, comme le dit Arianna, ce qui est intéressant dans l'ouvrage « La volonté de savoir », c'est d'abord la volonté de savoir quoi. Qu'est-ce qu'on veut savoir de la sexualité de chacun? C'est-à-dire quelle est cette volonté qui nous pousse, nous, victoriens, comme dit Foucault, à savoir quelque chose. Comme si au cœur de la sexualité, il y avait ce savoir qui allait nous dire quelque chose, comme tu le dis, Ariana, qui allait nous dire quelque chose de cette intimité. Mais là où, effectivement, Foucault renverse l'idée de la répression, c'est quand il nomme son chapitre « l'hypothèse répressive ». C'est bien une hypothèse dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, il dit « ne pensez pas qu'en fait la sexualité est réprimée ». Ça, c'est l'hypothèse qui nous mène à lever la répression en parlant sans cesse. Comme il dit d'ailleurs, il dit de la sexualité que c'est le sexe bavard. Il parle de ça. Il dit, enfin, il parle de ça. Il n'est pas bavard sur le fait que le sexe est bavard, mais il dit bien, en fait, on nous fait croire, comme il le dit à la fin, on nous fait croire à la répression. Ceci n'est qu'une hypothèse pour nous faire parler de notre sexualité. Et nous faire parler de notre sexualité entre dans un dispositif, le dispositif discursif de la sexualité, et un dispositif, c'est effectivement en lien avec toutes les technologies de contrôle et les technologies de pouvoir. Donc, la volonté de savoir, c'est la volonté du pouvoir. Puisque le savoir chez Foucault est en lien évidemment avec le pouvoir.
Est-ce que ça veut dire, pardon, je ne veux pas vous couper. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous pensons quelque chose comme une émancipation dans nos pratiques sexuelles, une libération, qui est quand même le mot qui a été extraordinairement employé si fréquemment, notamment dans la mouvance de 68, et beaucoup disent que en fait 68 était déjà une conséquence d'un mouvement de libération à partir des années 50. En fait, à notre insu, le pouvoir agit encore, car la libération, c'est en parler normalement pour avoir aussi des pratiques plus libres. Mais le fait que nous en parlions signifie que nous sommes encore dans le dispositif.
C'est en tout cas c'est ce que dit Foucault, et je pense que d'une certaine façon tout ce qui vise à c'est la dernière phrase du texte qui a été lu. Ironie de ce dispositif, il nous fait croire qu'il en va de notre libération. Il met libération entre guillemets, bien sûr, puisque est-ce que c'est une libération d'être dans un dispositif qui attend de nous un aveu? De quoi on se libère? De quelque chose dont on serait coupable? C'est-à-dire que la question, là encore, c'est quel est l'objet de cette libération? Pourquoi je ne serais pas libre, et non pas libéré, mais libre de vivre des plaisirs, des corps, des sexualités, sans nécessairement avoir le besoin de répondre à une injonction qui serait celle de parler de ma sexualité?
Mais je vais creuser ce point. En fait, je le trouve vraiment... je trouve que c'est vraiment le noyau de la pensée de Foucault sur cette question.
Je voulais juste...
Oui, je vous en prie, ajouter, oui. Ariana.
En fait, Foucault était très critique envers la notion d'émancipation, justement.
Absolument.
Certainement aussi des libérations. Parce qu'en fait, on ne sort jamais des relations de pouvoir qui nous entourent, comme on ne peut pas sortir de l'histoire, du contexte dans lequel on est. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Justement, il nous reste des possibilités, des pratiques de liberté.
Ça, c'est un peu de l'émancipation, parce que sinon, vous savez que c'est un reproche qui est souvent fait à Foucault, qu'il a pensé la domination, mais pas vraiment l'émancipation. Vous avez l'air d'aller dans son sens.
J'essaye de comprendre ce qu'il voulait dire, et je pense que derrière l'idée d'émancipation, il y a l'idée de pouvoir se libérer complètement. Et ça, c'est pas possible, même du dispositif de sexualité.
Oui.
Mais on peut trouver des manières de ruser avec les dispositifs,
résister.
De résister.
Voilà. L'un des termes de Foucault, c'est effectivement les résistances possibles au pouvoir, à tout type de pouvoir, les résistances. C'est-à-dire que, et c'est vrai ce que tu dis là, c'est-à-dire que les pratiques des corps, ce sont des formes de résistance au pouvoir. Les pratiques de liberté des corps. Et c'est pour ça qu'il emploie davantage le terme de plaisir que de désir, qui sera un des motifs, évidemment, de la psychanalyse dont il sera critique, bien sûr. Mais sur la question de l'émancipation, c'est un mot compliqué, en fait.
C'est un mot très compliqué.
Pour Foucault, oui.
Oui, pour Foucault. Et c'est un mot compliqué.
Ben oui, parce qu'il y a le problème de savoir qui émancipe qui, donc ça peut donner l'impression qu'il y a de la domination dans ceux qui prétendent émanciper les autres, etc.
Mais c'est quand même... Sortir de la tutelle.
Ouais.
L'émancipation, c'est sortir de la tutelle. D'une certaine façon, si on pense sortir de la tutelle, on pourrait lier ça à comment on sort de la tutelle des formes de pouvoir. Mais par des formes de résistance. Donc on peut articuler peut-être émancipation et résistance.
Mais ce qui est sûr, c'est que la résistance, à vous entendre, ça ne peut pas être par le discours, puisque le discours et la modalité même du dispositif du pouvoir, c'est nous faire parler de la sexualité, c'est encore le signe que le pouvoir est là. Mmh. On a vraiment l'impression que la seule manière de se libérer un peu ou de résister au pouvoir, c'est la pratique sans mots, voire le désintérêt apparent ou réel, dans le discours à l'égard de la sexualité, la banalisation. Finalement, plus nous parlons de sexe, moins nous sommes libérés.
En tout cas, c'est l'hypothèse de
Foucault. Et surtout, il s'agit peut-être d'en parler sans en faire un noyau de notre vérité profonde.
Exactement.
C'est le problème, c'est les liens entre les discours sur la sexualité et la vérité de ce que nous sommes. Peut-être parler des sexualités en dehors de la question « qui suis-je vraiment dans mon intimité la plus profonde, dans mes désirs les plus profonds » serait déjà une manière de résister à ces dispositifs.
Oui, parce que Foucault, il lit, il fait le lien entre, et qu'il critique, entre sexualité, subjectivité, identité, vérité. Il veut défaire cette affaire, cette espèce de concaténation, comme ça, de chaînes qui mettraient en place le fait que, par ma sexualité, je dis quelque chose d'une identité ou de ma subjectivité qui serait la vérité. Mais il défait ça. C'est-à-dire qu'il défait ça, il met ça sur le compte de la psychanalyse. Même si on peut évidemment critiquer ce point de vue, mais c'est intéressant. Mais il défait. Il dit que la vérité n'est pas. La sexualité n'est pas le.
Oui, il nous fait questionner cette évidence au final. Mais pourquoi parler de sexualité serait dire quelque chose de notre vérité?
Et ça, c'est la volonté de savoir, c'est-à-dire que c'est le dispositif discursif de la sexualité à partir du 19e. C'est la sexualité dans le sens moderne. Mm-hmm. Parce que si on reprend après les ouvrages de l'histoire de la sexualité, déjà, qu'il y ait une histoire de la sexualité, c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'il met en perspective une historicisation de cette question-là.
Ça veut dire que lui, il en parle beaucoup, en tout cas.
Je veux dire, pour qu'il en parle. Silence. Mais quand après, alors là, je laisserai Ariana évidemment parler, mais quand après, dans les ouvrages qui sont davantage en lien avec la question des plaisirs, des aphrodisias chez les Grecs et les Romains. Bon, là, je pense à Sandra Beringer et son livre sur la sexualité antique. Il n'y a pas de question de sexualité. Ouais. On est sur un autre terrain. La question de la chair.
On va revenir aux Grecs et au christianisme. La question de la chair, notamment. Mais puisque vous avez vous-même évoqué la psychanalyse d'entrée de jeu, Laurie Lofer, et que vous êtes psychanalyste, tout en ayant un intérêt très fort pour Michel Foucault, il est évidemment faux, vous l'avez suggéré, de croire que la psychanalyse ne parle que de sexe. C'est faux, enfin, je veux dire, on parle de ce qu'on veut. Mais une chose reste vraie d'un point de vue freudien, c'est que la curiosité, qui est quand même quelque chose qui se déploie aussi sur un divan d'analyste, c'est une pulsion sexuelle sublimée, mais c'est encore de la libido. Et donc, comment ça, Foucault, il ne peut pas le supporter s'il pense que ça veut dire qu'on reste dans le dispositif, pour lui, en sublimant toujours une pulsion sexuelle pour une curiosité globale sur soi-même.
Foucault a un rapport à la psychanalyse qui est un rapport ambivalent. Je vais le dire comme ça, j'emploie un terme un peu psychologique, mais un rapport de curiosité. Alors, je ne sais pas si c'est sa libido ou sa pulsion épistémophilique qui est en jeu là. En tout cas, dans l'histoire de la folie, à l'âge classique, en 72, Foucault dit « il faut être juste avec Freud ». Fameuse phrase de Foucault qui dit « voilà, il faut être juste avec Freud ». Freud opère une rupture avec la psychiatrie de son temps, notamment concernant la folie.
Oui.
Ce qui intéresse Foucault dans la psychanalyse, c'est que la psychanalyse n'est ni la psychiatrie, ni la psychologie. Et que la psychanalyse, pour Foucault, est une remise en perspective du dialogue entre la raison et ce qu'il appelle la déraison. Ça, c'est... Foucault le met au crédit extrêmement important de la psychanalyse. Et puis, un deuxième geste que Foucault reconnaît chez Freud, c'est d'avoir rompu avec ce qui s'appelait les théories de la dégénérescence de l'époque psychiatrique dans lesquelles Freud invente la psychanalyse. Foucault reconnaît ça, et le reconnaît de façon très ferme. C'est-à-dire que pour lui, l'invention de la psychanalyse, c'est la folie. C'est le discours, non pas sur la folie, mais c'est la folie. C'est-à-dire, on peut véritablement avoir ce dialogue avec la déraison. Ça, c'est très important, puisque précisément, ça permet à Foucault de dire qu'on sort du positivisme du 19e qui a masqué, justement, tout ce qui était de l'ordre de l'invention dans cette histoire-là.
Donc, il y a un hommage évident de Foucault.
Un hommage évident.
À la psychanalyse.
À la psychanalyse et à Freud. Il y a Freud.
Plus qu'à Lacan, peut-être. On en a déjà un peu parlé lundi. On va laisser Lacan.
On va laisser Lacan de côté. Alors là, c'est encore. C'est pas ambivalent, c'est encore plus compliqué, la rencontre entre. Mais c'est Jean Allouche qui en parle beaucoup de ça. Hein. Mm-hmm. Il vient de sortir un livre entre Lacan et Foucault de Jean Allouche qui rassemble beaucoup de textes très intéressants sur cette rencontre manquée.
Et en même temps, j'ai l'impression que s'il y a une chose que Foucault était aussi critique par rapport à la psychanalyse, mais justement ce qu'il montre avec son histoire de la sexualité, et notamment ses premiers volumes et les premiers projets d'histoire de la sexualité, c'est que sur la question de la sexualité, Freud n'a pas été si inventif que ça. Il n'a rien inventé. Sur la question de la sexualité, il a repris des choses qui en fait existaient déjà. Donc, comme tu l'as dit, la rupture de la psychanalyse, c'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire sur la question de par exemple, de la sexualité infantile. On savait déjà, la science savait déjà que les enfants avaient une
pourtant,
sexualité.
Alors, justement, là, j'aurais une toute petite inflexion par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'invention freudienne. Et je pense qu'il y a une petite mauvaise foi chez Foucault, ce qui n'est pas grave. Quand on théorise, on a toujours besoin d'être un peu de mauvaise foi.
Ce qui est bien, c'est que vous le disiez, parce qu'il n'y a rien de pire que les commentateurs qui sauvent leur auteur tout le temps.
Non,
c'est pas votre cas.
Non, moi, je suis mordu par Foucault, enfin, si je puis dire. Mais il n'empêche que, évidemment, parfois, il y a des petites torsions. Parce que là où...
C'est quoi la mauvaise foi, alors, de Foucault?
La mauvaise foi, c'est de dire, justement, que... Freud n'invente rien par rapport à la question du dispositif de la sexualité. Et qu'il est dans la lignée des psychiatres de son temps, ce qui n'est pas tout à fait juste, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend 1886, Krafft-Ebing qui écrit « Psychopathia sexualis », la somme psychiatrique sur ce qu'on appelait à l'époque les perversions. Donc, Krafft-Ebing, il dit, voilà, si vous faites ceci, ceci, cela, cela comme pratique, vous êtes un pervers. En gros, à l'époque, tout ce qui était considéré comme des pratiques perverses en lien avec la sexualité était que ça ne visait pas la reproduction de l'espèce. C'était ça, la perversion, début du XXe. Donc, si on a telle pratique, on est pervers. Ça veut dire qu'en fait, se déduit comme diagnostic la perversion d'un certain type de pratique. Freud, c'est ça qui est tout à fait intéressant, il inverse ça. Il dit, en fait, tous les enfants, au début... sont des pervers polymorphes. C'est-à-dire qu'en fait, pour Freud, la perversion, c'est satisfaire sa pulsion sexuelle avec n'importe quel type d'objet. Donc, le petit enfant qui écrabouille la mouche ou qui veut balancer son petit frère par la fenêtre, il est pris dans ses pulsions, il veut satisfaire une pulsion. Et donc, Freud dit, ça, ce sont des formes de perversion. Donc, en fait, il dit que la perversion...
On commence par être pervers,
exactement.
C'est ça.
Et tout le monde.
D'atteindre la sexualité adulte, alors le problème, il est là, normal. Là, vous allez arriver, la foucaldienne, si Freud définit une sexualité normale à un moment donné...
Mais Freud n'a jamais dit que c'était normal.
Non, c'est vrai.
Il n'a jamais... C'est-à-dire que, après, le problème de Freud, enfin, ça, rien n'a entendu déjà le dire, le problème de Freud, c'est pas Freud, ce sont les freudiens.
Attention, on pourrait dire pareil pour les foucaldiens par rapport à Freud.
Mais oui, mais oui. C'est vrai, mais
vous dites la même chose.
Mais oui, bien sûr.
Bon. Alors, on va parler maintenant plus précisément de ce que les Grecs en Occident, puis les chrétiens en Occident, ont fait à la sexualité. On va être beaucoup encore sur l'enjeu du discours. Je voudrais comprendre la différence. Voici donc une nouvelle archive de Michel Foucault dans la même émission de France Culture en 1977, suivie par un autre texte.
Cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là Est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir du plaisir, à partir des conduites de plaisir, comme les conduites sexuelles, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité comme principe d'intelligibilité de tout notre comportement et de tout notre être.
On admet que c'est du côté du sexe qu'il faut chercher les vérités les plus secrètes et les plus profondes de l'individu. Que c'est là qu'on peut le mieux découvrir ce qu'il est et ce qui le détermine. Et si pendant des siècles, on a cru qu'il fallait cacher les choses du sexe parce qu'elles étaient honteuses, on sait maintenant que c'est le sexe lui-même qui cache les parties les plus secrètes de l'individu, la structure de ses fantasmes, les racines de son moi, les formes de son rapport au réel. Au fond du sexe, la vérité. Au point de ce croisement de ces deux idées, qu'il ne faut pas nous tromper en ce qui concerne notre sexe et que notre sexe recèle ce qu'il y a de plus vrai en nous, la psychanalyse a enraciné sa vigueur culturelle. Elle nous promet à la fois notre sexe, le vrai, et toute cette vérité de nous-mêmes qui veille secrètement en lui.
La vérité du sexe. Bon, là, il y a une accusation à nouveau de Michel Foucault, lue ce matin par Nicolas Berger, à l'endroit de la psychanalyse. On vient d'en parler. Je voudrais qu'on déplace maintenant le regard un peu vers l'amont. Est-ce le christianisme, Arianna Forcini, pour Foucault, qui a créé fondamentalement le dispositif de la sexualité en Occident?
En fait, je pense que Foucault rencontre l'histoire du christianisme et notamment l'histoire de la confession chrétienne parce qu'il travaille sur ce qu'il appelle les dispositifs de sexualité qui est en fait pour lui quelque chose de propre à l'âge moderne, enfin on est autour du tournant entre 18e et 19e siècle. Et il s'est rendu bien compte que si on ne veut pas faire une histoire de ces liens entre sexualité et vérité de soi, la question de l'aveu de la confession chrétienne est tout à fait fondamentale et c'est une longue histoire qui l'amène d'abord à l'âge des réformes, de la réforme protestante et de la contre-réforme, et puis encore plus loin vers la patristique, enfin les débuts du christianisme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute cette traversée de la pensée chrétienne l'amène à reformuler par ailleurs son projet d'histoire de la sexualité, à écrire d'abord les aveux de la chair, même si le texte qui a été publié posthume, et puis les textes sur la sexualité des anciens. Donc l'amène à toute une série de réflexions aussi sur la notion de subjectivation, tout ce qu'on appelle les derniers Foucault. Mais en fait, les dispositifs de sexualité en tant que tels n'est pas une invention chrétienne, parce que c'est plutôt quelque chose qui existe à l'âge moderne. Ce que les chrétiens ont inventé, c'est la chair comme matière éthique. Enfin, c'est l'idée que ce qui nous définit, c'est la chair. Et qu'est-ce que la chair pour Foucault? C'est justement cette manière très spécifique d'élier la vérité, les discours de vérité sur soi et des pratiques de construction de notre manière de vivre qui prend pour objet nos désirs, nos pulsions, nos pensées comme quelque chose de fondamentalement dangereux. Enfin, c'est-à-dire que notre désir, les plus intimes, c'est pour ça qu'il faut toujours faire une herméneutique de soi, comme dira Foucault. Bon, c'est regarder à l'intérieur, c'est confesser à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui fondamentalement nous échappe. Et c'est la question du désir.
Alors, et ça intéresse la psychanalyse.
Et ça, ça intéresse certainement la psychanalyse.
Bien sûr. Parce que ce qui est intéressant dans les aveux de la chair, ce que tu dis, c'est que le terme de libido, dont on parlait tout à l'heure, c'est Augustin qui en parle. Mmh. C'est le premier à en parler. Donc, Foucault, qui est rusé, il fait quand même, en réemployant ce terme-là dans Les aveux de la chair, il fait quand même de la confession un dispositif ancêtre du dispositif de la psychanalyse.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que concernant le christianisme, enfin, si j'ai bien compris, au début, il s'intéressait beaucoup à la contre-réforme catholique, mm-hmm. à partir du Concile de Trente au milieu du XVIe siècle. Et puis, plus il fait des recherches, plus il va vers l'amont. Et il s'intéresse aux pères de l'Église, dont Augustin, etc. Donc, il remonte. Donc, la racine chrétienne est de plus en plus antérieure. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est quelle est la part des Grecs dans nos représentations de la sexualité en Occident. Est-ce tout autre chose que le christianisme aurait mis par terre? Ou bien, puisque vous avez suggéré que quelque chose préexistait au christianisme, déjà dans le monde grec, qui est quand même une source importante, il y avait une idée du sexe comme vérité première, clé de l'individu, si cette notion a du sens pour les Grecs, etc.
Selon la petite histoire, il semblerait que ce soit la rencontre avec Paul Venn, au moment où, effectivement, Foucault a déjà terminé les aveux de la chair, parce que les manuscrits, a dactylographié et donné à Gallimard en 82. Donc, au moment où il a terminé le travail sur la patristique, ce serait Paul Venn qui lui aurait dit, tu peux pas parler des libido, tu peux pas parler de la sexualité dans les premiers christianismes sans t'intéresser à l'Antiquité, aux Grecs et aux Romains. Et effectivement, même la grande thèse de Paul Venn, c'était qu'il n'y avait pas eu une rupture radicale, ou du moins pas là où on l'attendait, entre les anciens et les premiers chrétiens. Il y avait des tas de pratiques, des soins, des formes de discours qui ont été repris entre la fin de l'Antiquité païenne et l'Antiquité chrétienne. Donc, Foucault s'élance là, et c'est extraordinaire, parce qu'un peu d'années, il travaille sur une quantité de matériaux formidables, en grec, en latin, et il s'élance justement dans l'étude de cette sexualité antique.
Et qu'est-ce qu'il en dit?
Et il en dit qu'effectivement, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose, non pas au niveau des pratiques, parce qu'en soi, par exemple, on retrouve l'exaltation de l'abstinence sexuelle. On peut la retrouver dans les écoles de l'âge hellénistique et dans les premiers christianismes. Le fait de dire, pour se purifier, pour travailler sur soi, pour avoir un vie sage, il faut s'abstenir des relations sexuelles. Il ne faut pas se marier.
Enfin, pour un grec ancien, des choses qui sont complètement inverses par rapport aux nôtres. On voit bien avec Socrate, tout ce qu'on a pu en dire. Les relations avec un jeune homme adolescents que l'on éduque sont parfaitement licites. Les relations homosexuelles entre deux adultes masculins, puisque ça, clairement ça les intéresse beaucoup plus les hommes que les femmes, c'est scandaleux. C'est pourquoi Socrate, c'est un petit peu beaucoup même fait rabrouer sur le fait d'avoir eu, semble-t-il, des rapports homosexuels adultes. C'est exactement le contraire de ce que nous pensons, on est d'accord. Donc comment on arrive dans une histoire occidentale à une telle inversion, par exemple dans le domaine de l'homosexualité?
Vous savez,
homosexualité, ça n'existe pas, le terme dans l'Antiquité. Mais c'est pour ça que je me référais aux travaux que tu connais, aux travaux de Sandra Béranger sur la sexualité antique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes discours, en fait.
Non.
Ce n'est pas du tout pris dans les mêmes dispositifs discursifs. Les catégories, enfin, ce que tu dis, les catégories hétérosexualité, homosexualité, enfin, selon ces chercheurs et chercheuses, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Enfin, ça peut paraître bizarre. Ça ne veut pas dire que les pratiques n'existent pas. Ça veut dire que les questions... Alors là, c'est toi qui me dis, mais c'est plus en lien avec la question d'un statut social.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer non plus que Foucault nous met toujours face à la destruction de nos évidences. Il ne faut pas imaginer que l'Antiquité était tout à fait libertaire.
Absolument.
Par rapport aux pratiques sexuelles, et le christianisme aurait justement inventé des formes de répression très dures. Même si c'est vrai qu'effectivement, il y a les rapports qu'aujourd'hui on appelle homosexuels, par ailleurs. Rapport entre hommes, par exemple, entre un homme plus âgé et un jeune garçon, était tout à fait codifiés, mais c'est ça la question, dans la Grèce antique, et ne le seront plus dans les mondes chrétiens, les mondes anciens avaient ces règles.
Voilà.
Et comme tu le disais, Laurie...
Ce ne sont pas les mêmes.
Ce ne sont pas les mêmes. Mais, par exemple, c'était plutôt la question du statut social. L'homme plus âgé devait avoir une position active, par exemple, par rapport aux plus jeunes, et il ne fallait pas inverser ses rôles. Et donc, il y avait des codifications, des règles qui pouvaient être très strictes, par ailleurs. Sauf qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc,
ça, c'est le principe de réguler la sexualité.
C'est un principe, ça existe.
Mais est-ce qu'il y a une seule société qui ne fasse pas ça? Réguler, normer le sexe? C'est pas que l'Occident.
Non, je pense pas. Je pense
Vous pensez qu'il y a une spécificité occidentale? C'est ce que dit Foucault, non?
Non, pas dans le sens... il ne dit pas les choses comme ça. Hein. D'ailleurs, il ne se lancerait pas dans des affirmations trop universalistes. Mais je pense qu'il serait d'accord pour dire que chaque société trouve des moyens de codifier ce qui tourne autour des pratiques sexuelles. Mais parce qu'autour des pratiques sexuelles, se jouent aussi des enjeux comme la reproduction, la filiation, l'héritage, l'action du mariage, la question de la transmission. Enfin, il y a des tas de questions très importantes pour une société qui se jouent là. Et donc, on va codifier quelque chose des pratiques sexuelles. Sauf qu'on ne les fait pas tous de la même manière, ça c'est sûr.
Oui, et ce qui est intéressant dans ce que dit Laurie Loffer, c'est que... par rapport à la question de la norme, c'est qu'à un moment donné, il dit dans un de ses textes, je crois que c'est le pouvoir, le bête magnifique, il dit qu'en fait, on est passé, concernant la sexualité, mais pas simplement la sexualité, qu'on est passé de quelque chose de licite et d'illicite à quelque chose de normatif. C'est-à-dire qu'on est passé de la loi à la norme. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être considéré comme un criminel.
Oui.
Que d'être considéré comme un malade mental. C'est pas la même chose. Et que, dans les siècles passés, quand il y avait des pratiques sexuelles qui étaient prohibées par la loi, ben là, c'était un crime. Et à ce moment-là, la punition allait... la sanction était en lien avec ce crime. Et puis, comme il le dit, à partir du 18e et 19e siècle, on est passé du droit à la norme.
Et on est passé à la science aussi.
Et on est passé, bien sûr, à la science, qui est le soutien de ce dispositif normatif.
Alors, quelle est la différence entre ce qu'il appelle la scientia sexualis, science de la sexualité, avec l'ars erotica, l'art érotique, qui semble être quelque chose existant plus volontiers dans d'autres civilisations que la nôtre, par exemple au Japon ou en Inde, enfin je ne sais pas jusqu'à quel point il a fait des recherches. Mais quelle est la spécificité de la science de la sexualité occidentale?
C'est de considérer
Ariana,
qu'on peut établir quelque chose comme une vérité scientifique sur notre sexualité. Et qu'il ne s'agit pas simplement de pratiques ou de techniques de plaisir ou de rapports sexuels qu'on peut codifier ou pas, ou qu'on peut travailler ou pas, ou avec lesquels on prend du plaisir ou pas, mais qu'on peut effectivement, la science peut établir un discours qui soit universel, objectif, et qui vise quelque chose comme une naturalité de l'être humain. En fixant donc effectivement quelque chose qui est bien au-delà de la loi, parce que la loi, ça peut être social. Là, on fixe des normes parce que c'est la science qui les dit. C'est d'ailleurs là que l'homosexualité est née, dans ce sens-là.
Absolument.
Parce qu'avant, on pouvait être sodomite, avoir des rapports avec d'autres hommes, femmes, selon son sexe, être puni très sévèrement pour ça, mais on n'avait pas l'idée qu'il existait une nature homosexuelle.
La sexologie... c'est la scientia sexualis, comme dit Foucault, la sexologie apparaît, émerge, fin 18e, début 19e. C'est-à-dire, c'est le moment où on va cartographier, classifier, nosographier, faire un répertoire des pratiques dites déviantes ou pas. Enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les premières pratiques déviantes, ce sont celles qui ne visent pas la reproduction. C'était ça, la perversion. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, au 18e, la grande question en lien avec le sexe, c'était la masturbation. Énorme bouquin de Tissot sur ça, avec tous les interdits qui allaient avec cette pratique-là. Le 19e siècle, c'est ce qu'on a appelé d'abord l'inversion, Et ce que ensuite a émergé en 1886, voilà, c'est David Halperin qui en parle dans 100 ans d'homosexualité, le terme d'homosexualité. Mais ce qui est intéressant, et ce qui intéresse, me semble-t-il, Foucault, c'est pourquoi et dans quelle mesure, il le dit comme ça dans L'usage des plaisirs, je crois, pourquoi dans quelle mesure la sexualité est-elle devenue, est-elle entrée dans un domaine moral ?
Alors, je vous propose qu'on creuse ce point en écoutant Foucault à nouveau. Voici une archive, encore une autre, d'un entretien avec lui sur France Culture en 1977, suivi par la lecture d'un texte de Foucault, extrait des Hermaphrodites, ce texte dont vous allez beaucoup nous parler, puisque Arianna Sforcini, c'est vous qui l'avez édité. On écoute.
Ce qui est intéressant, c'est que, tard encore, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de sexualité anormale. Il y avait des pratiques qui étaient interdites. Bon, et en principe, par exemple, la sodomie était sanctionnée de la peine du feu. De fait, les peines réelles n'étaient pas celles-là. Enfin, c'était le geste lui-même, l'acte lui-même qui était interdit. À partir du XIXe siècle, alors on a commencé à inventer des sexualités anormales. Il y a eu la sexualité spécifique des homosexuels. Ou encore, il y a eu la sexualité spécifique des enfants. Et on a cherché quelle était leur forme, leur type de développement, leur structuration caractéristique, etc. On leur impose un contrôle de type médical, des techniques de correction, de réadaptation, de réajustement, des thérapeutiques, etc.
Les pervers, en général, c'est à quoi tend sans doute, à la fin du XIXe siècle, toute une pensée juridico-médicale. Mais faute de pouvoir délimiter les effets d'un si vaste projet et lui donner un corps dans une jurisprudence, à plus forte raison dans une législation, le pseudo-hermaphrodite, celui dont la sexualité anatomico-physiologique est déviante par rapport au sexe constitutif, servira de modèle. Il sera en quelque sorte le pervers en chair et en os, la perversion visible et incarnée, statufiée en quelque sorte. En lui, par la disqualification qu'on estime pouvoir lui imposer légitimement, s'éprouve la possibilité de faire entrer dans le droit des sexes la considération de la sexualité. Là réside l'importance stratégique, et pas seulement la valeur symbolique, de l'hermaphrodite dans les jeux de la loi et de la norme, à la fin du XIXe siècle.
Arianna Sforcini, parlez-nous de ce texte « Les hermaphrodites » de Michel Foucault. Qu'est-ce qu'il cherche dans les exemples d'hermaphrodites qui l'ont intéressé ? Et quelles sont les thèses ultimes qu'il défend à ce sujet ?
Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, là, on vient d'éditer un texte avec Éric Fassin et Henri-Paul Frochot que Foucault avait décidé de ne pas publier. Donc, il faut s'interroger sur à la fois ce qu'il aurait voulu faire et pourquoi il n'a pas publié ce texte. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 70, il travaille beaucoup sur des archives des personnes dites hermaphrodites. Et vous avez bien souligné que ce terme n'est plus utilisé aujourd'hui. On a décidé de les laisser dans les titres parce que c'est les termes utilisés par Foucault.
Oui, aujourd'hui on est donc intersexe. Hein?
Voilà, on est intersexe. Et d'ailleurs, si tout un discours sur les hermaphrodites s'est formulé et aujourd'hui est utilisé, je pense que c'est aussi grâce à des travaux pionniers comme ceux de Michel Foucault. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voit dans ces individus qui sont les hermaphrodites, bon, ainsi dit, c'est des personnes dont l'attribution à l'un des deux sexes, selon cette loi qui structure nos sociétés occidentales de la binarité des sexes, deux sexes, hommes et femmes, l'attribution à ces sexes est ambiguë, est difficile et incertaine. Parce que la matérialité de leur corps, en fait, est ambiguë elle-même. Donc, c'est
et
des personnes
il y a du pouvoir qui décide pour eux. Il y a du pouvoir qui décide à la naissance.
Il y a du pouvoir.
Et puis parfois, il y a un autre pouvoir sollicité plus tard au moment de l'adolescence ou du jeune adulte qui peut éventuellement corriger ce qui a été décidé à la naissance.
C'est
et
ça.
Dans tous les cas, pour Foucault, ça produit de la souffrance ?
Le fait de choisir.
Il montre bien que avant la période qu'on appelle, enfin les 19e siècle dont on parlait, donc la période qui voit l'émergence de ces pouvoirs médicaux sur la sexualité, il y avait une possibilité aussi d'auto-choisir pour la personne hermaphrodite. En arrivant à l'âge adulte,
oui,
il pouvait lui, il pouvait
faut attendre l'âge adulte, oui.
Oui, bien sûr, mais disons à l'adolescence, âge adulte, il pouvait revenir sur ses choix, sur ses sexes qui lui avaient été attribués à la naissance. Bien sûr, c'est pas un droit de choix absolu, c'est pas, ça donne pas.
Mais il faut choisir, c'est ça.
Mais il faut choisir. Le problème, c'est qu'on peut pas rester, c'est ça la question. On peut pas rester entre les deux sexes.
Et donc ça, l'obligation à avoir un sexe.
Oui.
Et clair,
une fois qu'on
net,
a choisi,
officier,
on peut pas changer. Peut pas surtout, changer. ce qui est très dangereux aussi, c'est le passage. On peut pas jouer des deux sexes en même temps.
C'est la première phrase qu'il écrit dans la préface à Herculine Barbin aux mémoires. A-t-on besoin d'un vrai sexe ? C'est pas simplement un sexe. C'est un vrai sexe. C'est-à-dire que là, on est vraiment, pour le cas de le dire, on est vraiment dans l'articulation entre sexe et vérité. C'est pas a-t-on besoin d'un sexe ? C'est-à-dire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire, c'est ça, la question qu'il pose, c'est a-t-on besoin d'un vrai sexe ? Ben, c'est une vraie question.
Alors, c'est une question qui soulève le problème de l'identité sexuelle.
Exactement.
Mais il y en a une autre qui, parfois, s'est articulée à cette première question, qui est choisir aussi sa sexualité. Car on peut choisir pour vous, si vous êtes intersexe, que vous êtes un homme ou une femme, mais cet homme ou cette femme, on attend à certains moments de l'histoire, qu'un homme est un rapport exclusivement hétérosexuel, et pareil pour la femme. Donc, l'idée que c'est un double trouble, pour employer le mot de Judith Butler, qu'incarne l'hermaphrodite, mot de Foucault, c'est-à-dire celui dont l'identité sexuelle est peu claire, et possiblement les choix sexuels aussi.
Alors là, ça voudrait dire qu'on fait un lien direct entre identité et sexualité, ce qui pose problème.
Ce qui pose problème, mais ce qu'on a fait souvent, vous êtes d'accord dans l'histoire.
Je parle, bien sûr.
Foucault le sait admirablement.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il essaye de défaire.
Voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous.
Absolument.
Il y a un double problème autour de l'hermaphrodite, pour employer le mot de Foucault. Il y a un double trouble que l'histoire ne supporte pas.
C'est là que c'est intéressant. Foucault montre qu'effectivement, dans ce texte, je trouve que l'un des passages des thèses les plus fondamentales, c'est justement cette articulation, la tentative par Foucault de distinguer, et il le fait dans ce texte plus que dans d'autres, sexe, sexualité.
Oui.
Donc, il montre bien que c'est à partir de du moment où la médecine, notamment la psychiatrie, tout le savoir scientifique entre 18e et 19e siècle, s'est mis à chercher quel est le vrai sexe, comme l'anatomie ne suffit pas, le sexe anatomique ne suffit pas, on est obligé d'interroger quelque chose d'autre,
qui est
la sexualité.
Voilà. Exactement.
Donc on invente la sexualité, donc on ne se dit pas seulement est-ce qu'il y a un pénis ou un clitoris. Parfois on n'arrive pas trop à décider. On commence à dire, mais alors cette personne-là, est-ce qu'elle désire, il désire des hommes ou des femmes ?
Et d'ailleurs, dans les mémoires d'Herculine Barbin, c'est exactement cette question-là, puisque à un moment donné, Herculine Barbin vit une histoire passionnée avec une jeune pensionnaire de là où elle travaille, comme institutrice, Sarah, je crois. Arrive à ce moment-là la batterie médico-juridique qui l'assigne, qui l'oblige à être assigné à l'autre sexe.
À cause du choix sexuel.
Et ça fait partie de
Voilà, donc l'identité sexuelle dépend du choix sexuel. Et c'est ça que veut défaire Foucault.
Vous voulez défaire Foucault. Mais cette histoire d'identité, elle est très importante. Enfin, elle est très importante à défaire. C'est Halperin. Moi, j'aime bien cette citation de David Halperin, qui est un philosophe américain qui a beaucoup travaillé sur Foucault. C'est lui qui a écrit 100 ans d'homosexualité, justement pour dire que l'homosexualité, à peine 100 ans, enfin là ça fait 150 mais, ou 120, mais à peine 100 ans. Et en parlant de l'identité, alors il évoque l'identité gay, mais ça pourrait être n'importe quel type d'identité, il dit l'identité, elle est politiquement nécessaire et politiquement catastrophique. C'est un point de tension que je trouve extrêmement intéressant.
Alors le problème de l'identité qui longtemps devait suivre une pratique sexuelle, alors que les deux questions peuvent être découplées, mais on le voit par exemple aussi dans le film de Jean-Claude Monod, philosophe, connaît bien Foucault, Un jour fille, on l'avait reçu ici il y a à peu près 2 ans, où c'est la pratique sexuelle qui pousse, d'une personne, qui pousse à réassigner à cette personne un autre sexe. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'en fonction du sexe qu'elle avait avant, elle soit désormais homosexuelle. Donc on change de sexe.
C'est pratique en Iran, par
voilà. Mais vous êtes sûr que la question de l'identité est plus importante que celle de la liberté des pratiques ? Vous êtes sûr que la question de l'identité n'est pas une impasse, même pour Foucault ? Une impasse totale, il faut arrêter avec l'identité.
Mais c'est pour ça que...
C'est ce qu'il voulait faire.
C'est ce qu'il veut faire.
Après,
c'est ce qu'il veut faire, ah, d'accord. Oui, bien sûr, Foucault, il veut défaire cette affaire.
S'il y arrive. Ouais.
Mais... Il veut défaire ça. Et quand il parle, justement, de... On nous fait croire à notre libération, etc., etc., il veut défaire la question. Quand Alperine dit l'identité, c'est politiquement nécessaire, c'est pour...
Oui, c'est pour ça que je vous redemande. Vous avez dit, c'est politiquement nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Et politiquement catastrophique. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un point de tension que je trouve intéressant. C'est-à-dire, politiquement nécessaire, ça veut dire que pour la visibilité des droits, pour l'acquisition des droits pour les personnes opprimées, justement, ou discriminées en raison de leur choix sexuel, en raison de leur identité raciale, en raison de plein de choses. Elle est politiquement nécessaire. Et politiquement catastrophique, en même temps. C'est-à-dire, c'est simultanément qu'elle est à la fois nécessaire pour des raisons politiques, de visibilité de droit, et catastrophique pour des raisons d'essentialisation de cette identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enfermé, essentialisé dans une identité, je suis une femme, cisgenre, avec tel type de pratique, etc., à ce moment-là, il y a une essentialisation. Et cette essentialisation, comme dit Foucault, permet justement les dispositifs de pouvoir. C'est ça qui, à ce moment-là, suppose le contrôle.
C'est pour cela que Foucault a toujours refusé d'avouer d'être homosexuel. Enfin,
oui.
Il voulait pas se dire. Justement, il voulait pas. Voilà, enfin, il voulait pas se reconnaître ou s'identifier comme homosexuel.
Parce que l'homosexualité, c'est pas une identité, c'est une pratique. Justement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la question qu'il faudrait poser, c'est de savoir si Foucault refusait de se dire homme.
Non. Non, il l'a pas déconstruit, il n'a pas allé jusque là.
Tellement...
La question du genre, c'était pas tellement la sienne.
C'est bien celle-là que pose le problème de l'identité, au-delà
aussi,
des pratiques, justement. Ça...
Oui, absolument, aussi. C'est-à-dire que ce que Foucault a plutôt déconstruit, comme on dirait aujourd'hui, c'est vraiment la question des identités sexuées et sexuelles. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il fallait délester le sexe de la sexualité, c'est-à-dire défaire de la question du sexe les dispositifs discursifs, donc de pouvoir, de la sexualité. C'est ça qu'il voulait défaire. Après, la question du genre, ça n'a pas été son affaire.
Non, il travaille sur les hermaphrodites à la fin de sa vie et ne publie pas, et on retombe sur votre complication, Ariana Sforcini.
Il y a des passages dans ces textes qui montrent bien qu'il savait que...
c'était
un sujet et que l'homme est le sexe par excellence.
Et pourquoi n'a-t-il pas publié, d'après vous?
Parce qu'il a commencé à travailler sur l'aveu chrétien, parce qu'il s'est occupé des pères de l'Église,
parce qu'il est tombé malade.
Parce qu'il a changé, il a changé de
il n'avait plus le temps non plus,
voilà.
Je pense.
Et puis il n'avait plus le temps, et puis voilà.
Non mais tu as raison, c'est quand je dis qu'il ne s'est pas intéressé au genre, c'est-à-dire qu'en fait,
il n'a pas problématisé de la même manière.
Il ne l'a pas problématisé de la même façon, mais ça l'intéressait bien sûr.
Ça l'intéressait. À cet égard, certains disent que Butler, par exemple, a contesté Foucault sur certaines choses, d'autres disent qu'elle est dans la continuité. Est-ce que vous pensez que nos réflexions actuelles avec Butler et d'autres sur le genre sont la continuité de Foucault ou marquent une nouvelle étape non foucaldienne?
Pour moi, c'est les deux. Je pense que il y a une continuité sur certains points. Je pense que et Butler le reconnaît d'ailleurs. Enfin, sans les généalogies foucaldiennes, sans ces archéologies des savoirs, toute une certaine réflexion sur les pratiques, des soins, l'identité sexuelle, les genres n'aurait pas été possible.
Il a ouvert ce champ-là.
Il a ouvert ce champ-là et en même temps, et heureusement, les théoriciens et les théoriciennes qui viennent après lui l'occupent d'une autre manière, proposent d'autres solutions et voilà. Et ça, c'est normal.
Eh bien,
général, et c'est très bien.
Je vous remercie. Oui, vous avez le dernier mot si vous faites 10 secondes, parce que j'ai plus le temps. Non, vous voulez pas.
Non, je pense qu'il faut continuer de lire Foucault.
Voilà, très bien, merci. Merci beaucoup à toutes les deux, Ariana Sforcini et Laurie Loffert. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème la création des formes. C'est le pourquoi du comment.
Comment résistons-nous à l'informe ? Le signe que la notion de forme n'est pas juste un vêtement extérieur posé sur les objets ou un modèle mathématique ou des sciences formelles en général qui pourraient s'extraire de la matière même de nos vies, ce signe donc de l'importance de la notion de forme dans nos vies. C'est son caractère, pour employer un terme philosophique, normatif. La forme désigne aussi le meilleur, ce qu'il y a de meilleur dans un être, ce qui nous dit sa vérité, c'est la forme qu'on peut supposer parfaite. Y a-t-il une forme parfaite de l'être humain, une morphologie parfaite ? En tout cas, dans l'histoire des concepts philosophiques, la notion de forme est précisément le sens même d'un être qu'il doit atteindre malgré ses imperfections matérielles. C'est le sens finaliste de la forme chez Aristote. Par exemple, il y a une forme parfaite de l'être humain qui a des caractères géométriques. Cela a donné évidemment ces modèles de la beauté de l'Antiquité qui deviennent effectivement normatifs face à ce risque non seulement de l'informe absolue, mais justement d'une manière négative de ce qu'on appelait alors le difforme, la difformité, le monstrueux par rapport à cette norme esthétique, mais aussi éthique et politique de la forme parfaite. On voit qu'en extrayant ainsi la forme du vivant lui-même, on peut en faire une norme qui a sa part de violence. Le difforme de chez un être humain n'a rien, en réalité, de négatif en soi. Le difforme est au contraire toujours par rapport à la forme, dans un travail de normativité vivante, comme le dit le philosophe de la vie Georges Canguilhem. Il n'y a pas de difformité en soi dans le vivant. La forme est un travail de chaque être pour se donner sens, émerger de l'informe total. Il faut donc distinguer le difforme, qui est plutôt une construction normative humaine avec des normes esthétiques et éthiques qui ont une histoire, de l'informe absolu qui, en revanche, est le soubassement dangereux pour les êtres humains en général, dans la mesure où dans l'informe se dissout toute information, tout sens, tout contenu qui émerge. En effet, nous devons résister à l'informe et en même temps, ne pas nous dépêcher de juger difforme tel ou tel écart par rapport à une norme formelle abstraite et imposée. Il faut opposer l'émergence de l'information, l'émergence de la forme et peut-être d'abord du sens dans nos vies humaines et par ailleurs, la critique de la difformité, encore une fois, qui devient souvent une violence. Ainsi, ceux qui nous paraissent des monstres, des êtres difformes esthétiquement, sont-ils parfois, comme dans le film Freaks de Todd Browning, des êtres qui, au contraire, prennent la forme d'êtres humains plus que ceux qui ont une beauté formelle apparemment idéale, mais qui se révèlent être des monstres d'une manière morale. Il faut lutter contre l'informe, car l'informe menace de tout écraser, de tout dissoudre, comme dans une crue de boue, comme dans une coulée de boue qui dissout toute l'émergence du sens. Le sens, c'est, comme l'ont montré Gilbert Simondon et Michel Serres, c'est l'émergence du sens dans une matière qui certes lui résiste, mais à laquelle on peut donner sens, comme dans l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, comme disait Faucillon, même s'il avait un vitalisme un peu normatif du 19e siècle, l'œuvre d'art, c'est la manière de donner forme de manière vivante, comme le fait la vie elle-même à l'univers.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Folpin, Luna Adjla, Antoine Ravon, Axel Dubois, Nassim El Kabli et Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.